Et bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour de nouvelles légendes. On en a 4 et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul comme la semaine dernière. Il y a mon cher et tendre ami de toujours, Jérémy.
Bonjour.
Merci. Alors, cette fois-ci, on se retrouve pour 4 légendes. Nous avons le Minotaure et le Centaure que je vais faire. Et nous avons...
Moi, je ferai les Satyres et les Noirs.
Alors, je vais vous commencer par les Centaures. J'espère que vous êtes prêts, messieurs, dames. Alors, les Centaures, dans la mythologie grecque, est une créature mi-homme, mi-cheval, que l'on disait issue de Zion et de Néphélé, sœur de Centaureau et des juments de Magnésie. Le plus célèbre des Centaures est Chiron, immortel, chargé de former les jeunes héros, comme dans Percy Jackson, que nous avons vu il y a 3-4 semaines. Les Centaures sont décrits comme ayant la partie inférieure équinée. Ils vivaient à l'origine au mont Pélion, en Thessalie, parmi les plus connus, Chiron, qui aurait formé de jeunes héros grecs, dont Achille et Jason. Pholos, un centaure calme, ami d'Héraclès. Et Nésos, un centaure sauvage qui tente d'enlever l'épouse d'Héraclès, Déphénie, avant d'être tué par lui. La mythologie grecque compte plusieurs autres centaures. Euryton, Hélios, Réikos, Crotos, Térée. On a l'agression d'Atalante, croise un jour la route de centaures, Hélios et Phéos. Ceux-ci veulent abuser de la jeune vierge, mais sont transpercés par de ses flèches. Les centaures du mont Phélios avaient pour voisins les Lapithés, dont ils descendaient. Ils sont invités à l'occasion du mariage du roi Pirithous et Hippodamie, tout comme Thersée. Mais le banquet tourne mal. Plusieurs centaures ivres, notamment Eurytion, tentent de violer Hippodamie et d'autres femmes lipides, qui étaient aussi des dieux. Un combat s'engage au cours duquel de nombreux centaures sont tués. Les autres chars, chassés du mont Phélios, sont réfugiés pour la plupart autour de Pholos, sur le mont Pholéo. Le poète latin Euvite invite dans ce contexte l'histoire de Cyclare, centaure d'une grande beauté tuée par les lapides, une épouse de centauresse. Ilo nommé, infligé par sa mort, se suicide. Après avoir été chassé du mont Pholéos, Chiron s'installe au cap Marley. Or, les autres centaures, toujours traqués par Héraclès, parviennent jusqu'à lui. Là, le héros utilise ses flèches empoisonnées et en dégage une par mégarde sur Chiron, son tuteur. Celui-ci, rongé de douleur, mais ne pouvait mourir parce qu'il était immortel, obtient finalement de Zeus de mourir à la place de Prométhée. Les rares survivants sont par la suite dispersés dans le Pélonèse et près de l'Ise avec l'aide de Poséidon qui en cache certains. Et voilà, nous allons partir avec Jérémy.
Alors moi, je vais partir un peu loin de tous ces animaux et je vais vous parler des moires. Les moires sont des humaines, pour une fois. Il y a des humains dans la mythologie grecque, c'est pour le souligner. Donc les moires sont au nombre de 3. Elles se nomment Clotos, Lachesis et Atropos. Elles servent à une seule chose finalement, c'est de dérouler la vie et de la terminer le moment venu. Donc, nous avons donc Clotho qui se nomme la fileuse, qui tisse le fil de la vie, Lachéis, la réparatrice qui déroule ce fil, et Atropos, l'inflexible qui coupe ce fil. Le fil est donc associé à la vie et au destin. Finalement, les moires sont une représentation du destin. Donc, Clotho, qui est donc la fileuse, va, selon les interprétations, l'interprétation la plus souvent dite étant que Clotho arrive avant la naissance. Elle tisse le fil, donc elle prépare le destin, qu'elle garde le destin. Ensuite, Lachéis va dérouler ce fil, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que les événements qui doivent se passer se passent. Et pour finir, Atropos coupe ce fil, c'est donc la fin de la vie. Ça, c'est l'hypothèse la plus souvent dite. Il y a une deuxième hypothèse qui dit que le fil que tisse Clotho se déroule en continu. C'est Clotho qui file le destin et Lachéis qui fait passer les événements plus ou moins rapidement. En tout cas, c'est une autre interprétation, mais que je comprends bien moins, que je comprends beaucoup moins, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Au niveau de la généalogie des moires, comme dans toute la mythologie grecque, ça part un peu en cacahuète. Donc je vais essayer de m'aventurer le moins possible dans ce terrain. Tout ce qu'on peut plus ou moins être à peu près sûr, c'est que Ciron et Hygin citent Erebe comme père des moires. Je vais pas aller m'aventurer autre part, ça sera suffisant. Donc Erebe, plus ou moins probablement sûr père des moires. Au niveau des représentations de ces femmes, elles sont représentées avec un âge différent. Souvent, Clotho est représentée beaucoup plus jeune. Lachéis est représentée comme une femme dans la quarantaine, tandis que Atropos est une femme très âgée au bord de la mort. C'est souvent la représentation qui est faite des mois. Eh bien, je crois que j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Donc, ce qu'il faut retenir des mois, c'est que ce sont les divinités associées au destin. Nous avons donc, je vous remets les noms, Clotho, la fileuse qui tisse le fil de la vie, Lachéis, la réparatrice qui le déroule, et Atropos, l'inflexible qui le coupe.
En
et
gros, voilà. C'est partout au mur.
Voilà! On sait totalement par qui on va mourir. Sachez que si vous mourrez, ce que je vous souhaite arriver le plus tard possible, c'est parce que Atropos vous a coupé le fil de la vie. Et voilà, c'est petite information.
On va continuer cette fois-ci avec le Minotaure. Et c'est parti pour le Minotaure. Alors, le Minotaure. Le monstre le plus célèbre de la mythologie grecque, né d'un amour contre nature de Pacifée, pour un taureau, symbolise avec fatalité la bestialité que chacun porte en soi. Et moi qui ai inventé ce monstre sans être en rien coupable, sous la main de Pacifée, dans une tirade des Crétois d'Eurydice, une pièce datée des années 430 avant J.C. avec Phae, Carnaë et Sthénébé. Pacifée appartient au cortège des femmes Eurydiennes victimes d'une passion dont elle rejette la responsabilité. Pacifée, amoureuse, malgré. Le coupable, c'est Poséidon, dieu de mer, qui a suscité chez elle une irrépressible et contre-nature pour un taureau. Le coupable est son époux, Mythos, roi de Crète, qui a déclenché la colère de Poséidon, qui maintenant le blâmait de vouloir le museler, l'enfermer dans un cachot. Et un discours Pacifée résume la légende qui court depuis le temps archaïque sur la naissance de Minotaure, son fils monstrueux dont la tête de taureau personnifiait la faute funeste de la reine, un mythe qui a connu diverses versions et interprétations. Les premières traces littéraires appartiennent dans une œuvre attribuée aux histoires de catalogue des femmes. Des fragments poétiques évoquent la mère, un taureau qui tombe amoureux, l'épouse de Minos et un fils prodigieux qui a un corps d'homme et une tête de taureau. Dans la lecture de la bibliothèque du pseudo-Apollodore et celle de Dior de Sicile, que l'on accède à une reconstitution de l'ensemble de l'histoire, lorsque le roi de Crète, Astério, meurt sans enfant légitime, Minos veut prendre le pouvoir. Ses frères, Radamné et Sarpedon, l'en empêchent. Minos leur soutient, tient bien le royaume des dieux. Pour prouver ses requêtes, sont entendus des divinités. Lors d'un sacrifice à Poséidon, Minos lui demande de faire apparaître un taureau lors des flots et promet de lui sacrifier. Le dieu Poséidon se venge d'un sacrilège commis par Minos, le roi de Crète, en insufflant dans le cœur de la reine Pacifée une passion dévorante pour un taureau. Mais une fois la bête blanche sur le rivage, Minos s'empare du trône et envoie le taureau rejoindre son troupeau. Poséidon furieux instrumentalise Pacifée pour se venger du roi menteur et sacrilège. La reine dès lors, en proie à une passion dévorante pour le taureau, elle se retourne vers Dédale, l'Arthénien, l'artisan de l'Égénie qui séjourne en Crète après avoir été banni de sa patrie à cause du meurtre de son neveu. Il construit pour la reine une génisse en bois qu'il couvre d'une vraie peau de bête et place le leurre près du pré, où le taureau de Poséidon a l'habitude de prêtre. Avec le taureau, donne naissance au Minotaure. Apollodore comme Astérion. Une variante apparaît chez l'auteur Ennius Hygien, selon laquelle la reine aurait été coupable d'avoir négligé la déesse Aphrodite pour cette raison, Vénus lui inspire un horrible amour à la suite duquel elle devient amoureuse du taureau. Et je crois que je vais vous laisser ici parce qu'on a encore une autre légende à raconter, mon cher ami Jérémy.
En effet, parce que la légende du Minotaure est beaucoup trop grosse, du coup on va la raccourcir un petit peu. Et je vais du coup vous parler non pas d'une légende, mais d'une espèce qui s'appelle le satyre. Le satyre, à ne pas confondre avec la figure de style, d'ailleurs.
T'as bien vu.
Ouais. Car le satyre ici s'écrit avec un Y, alors que la figure de style s'écrit avec un I. On sort du bac de français, comprenez que nous avons la tête remplie de figures de style.
C'était il y a une semaine, le bac de français, Jérémy. Il y a toujours l'oral. Il a toujours le râle.
Voilà. Le Thatcher, c'est donc une créature de la mythologie grecque. Dans la mythologie romaine, c'est le faun, qui sont quasiment les mêmes créatures à quelques détails près. Donc les satyres sont les mâles qui sont associés aux femelles des ménades. Ces deux entités vont former le cortège dionysiaque, avec un nom un peu imprononçable. Donc ce cortège, c'est le cortège qui accompagne le dieu Dionysos. Ils peuvent aussi s'associer au dieu Pan, celui qui jouait de la flûte de Pan. Ils peuvent également accompagner les nymphes, voilà, qui sont des créatures féminines de la mythologie grecque. Donc les satyres, pardon, sont représentés souvent comme des créatures mi-bouc, chèvre, mi-homme. Souvent, ils ont des bustes d'hommes et des jambes de chèvre avec parfois des petites cornes. Du coup, le rôle des satyres dans la société, dans la mythologie plutôt, c'était donc d'accompagner les dieux, les nymphes, certains dieux, etc., dans des quêtes, dans des recherches, ou même juste lors de certaines cérémonies.
Ou d'être présent pour les fêtes de Dionysos.
Exactement. Les satyres, en général, c'était plus les faunes de la mythologie romaine, mais je pense que ça se recoupe, sont très 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 protecteurs envers leur nature, envers la nature. C'est-à-dire quand on va aller abîmer le territoire d'un satyre ou d'un faune, même si c'est des tout petits trucs, je donne pas cher de votre peau. Donc on n'abîme pas la nature, on n'abîme pas le territoire des satyres, c'est très important. Voilà, pensez aux satyres. Et voilà. Merci, au revoir.
Et sur ce, on vous dit au revoir.